Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'apérophonie. Fin du suspense pour vous, le sujet de ce soir, c'est autre que j'accueille Robin et Bérangère, les deux services civiques de l'asso CIE, Conscience et Impact Écologique, une asso de Grenoble, mais aussi présente sur tout le territoire français. Je crois qu'il y a plus d'une quinzaine d'assos CIE. Voilà, en France. Mais ils en parleront mieux que moi. Bonsoir Robin et bonsoir Bérangère.
Bonsoir.
Bonsoir.
Comment vous allez ?
Très bien, et toi ?
Ben ça va, ça va. C'est pas votre première fois à la radio, il me semble, en tout cas Robin, non. Toi Bérangère, je ne sais pas. Mais non ?
Deuxième fois.
Vous êtes, Deuxième fois. Ouais. Vous avez été invité par News FM, c'est ça, si je dis pas de bêtises ?
RKS.
RKS, voilà, c'est presque la même chose. C'est une radio. Ok, très bien. Alors moi, je voulais commencer cette émission en faisant une petite redéfinition des termes. Et du coup, je voulais savoir ce que ça voulait dire écologie pour vous.
Alors l'écologie, bah, c'est vaste, c'est assez personnel, enfin, ce qu'on peut y mettre derrière. Du coup, moi, ce que j'y mets aujourd'hui, en fait, c'est tout simplement, j'y mets un aspect de combat politique pour en fait la bonne sauvegarde de l'environnement terrestre duquel on dépend, pour pouvoir vivre une vie à peu près correcte tout au long de ma vie et plus tard après pour les autres générations.
Ok. Donc un aspect politique, c'est important que tu en parles puisque ça va être un des pans principaux de l'association. Est-ce que pour vous l'écologie c'est dissociable ou ça fait partie d'un tout ?
Alors, à CIE, du moins, on défend une vision politique de l'écologie. Nous, on fait justement ce qu'on appelle de l'écologie politique, c'est-à-dire qu'on considère que les enjeux environnementaux sont vraiment pleinement intégrés et liés, en fait, aux enjeux sociétaux et donc, de fait, politiques. Donc, par exemple, ça va être un peu différent des associations dites plus naturalistes, comme la LPO ou France Nature Environnement. LPO, c'est Ligue de Protection des Oiseaux. Et donc, ils sont des grandes assos qui font un travail formidable, mais qui, elles, vont vraiment jouer sur la protection de la biodiversité, d'espèces en particulier, etc., avec une vision peut-être moins politique dans leur essence, alors que nous, ça va vraiment être là-dessus.
Est-ce que c'est un aspect qui vous a attiré pour venir vous engager dans l'association ?
Bah alors moi, oui, Bérangère dira peut-être autre chose, je ne sais pas.
Moi, moins de ce côté-là, c'est vrai que j'avais cette vision un peu mauvaise de tout de suite on est partisan d'un parti, alors que ce n'est pas le cas du tout. À CIE, on n'est pas partisan, donc on est chacun libre d'avoir nos propres opinions politiques. Et du coup, je pense que la notion, le mot politique me faisait peur dans ce sens-là, parce que je n'étais pas très bien renseignée sur le sujet, et maintenant, en fait, je rejoins totalement cette vision de CIE.
Ok. Et en parlant de renseignements sur le sujet, justement, je voulais savoir en fait la place que l'écologie avait dans votre vie avant de votre engagement associatif et peut-être votre parcours de pensée avant de passer à l'acte, si on peut dire ça comme ça.
Alors, bah, c'est marrant, c'est un peu la question qu'on nous avait posée à l'entretien pour justement le service civique. Du coup, moi, c'est assez mignon, on va dire. C'est une anecdote de quand j'étais tout petit, que je m'étais fâché contre ma maman qui achetait des pommes bio, et parce qu'il y avait un verre dedans. Et du coup, elle m'avait expliqué que si la pomme n'était pas bio, il n'y avait pas de verre. Donc moi, c'est ce que je voulais. Et que ça, c'était parce que le verre mourait. Et du coup, à partir de là, je me suis dit que c'était triste pour le verre. Et du coup, c'est là qu'a commencé mes convictions écolo radicales.
Et t'avais quel âge ?
Moi, je devais avoir 6 ans à peu près. Il y avait aussi les gaz à effet de serre où je pensais que c'était des cerfs, les animaux qui se baladaient, qui me faisaient peur du coup.
D'accord.
Donc je suis parti de loin, mais voilà, maintenant j'ai un peu mieux compris les termes.
Et ça fait partie de votre parcours professionnel ou dans les études avant ?
De mon côté, pas du tout. Là où Robin et moi, on est très différents, c'est que moi, j'ai fait des études, j'ai fait un master en hôtellerie, donc vraiment rien à voir. Et justement, je voulais ajouter ce côté-là à ce domaine qui me passionne et que je ne connaissais pas du tout. Mais avant CIE, j'avais même pas d'engagement. Ça faisait très longtemps que je voulais m'engager, mais j'en avais pas encore. Donc c'est vraiment le début de mon engagement dans l'écologie.
Alors que oui, moi, pour le coup, assez tôt, en fait, après le bac, j'ai orienté mes études vers quelque chose qui était compatible justement avec l'écologie. Donc j'ai fait Sciences Po de base parce que c'est généraliste justement et que ça me permettait de repousser ce choix. Et ça m'a permis de faire maintenant un master en transition écologique. Donc je suis un peu en plein dedans. Ouais.
Transition écologique, du coup, c'est aussi le principe de votre association qui se qualifie, se définit en tout cas, comme une association d'éducation populaire à la transition écologique. Qu'est-ce que ça veut dire, éducation populaire, et en quoi vous vous retrouvez dedans ?
Alors, l'éducation populaire, ça va être pour nous, en fait, la posture, c'est un peu ce qui va guider la posture qu'on va avoir dans nos interventions, dans tous nos dispositifs, en fait. C'est très large, en fait. Il y a plein de définitions de l'éducation populaire, il y a plein de façons de la comprendre, etc. Nous, je dirais que c'est dans nos présentations, on va éviter d'avoir une posture académique, par exemple, de donner de l'information brute à un public qui va l'assimiler comme telle. On va plutôt essayer de donner des clés de compréhension pour que le public se les approprie et derrière, avec ces clés de compréhension, comprenne le sujet dont on parle à sa façon, en fait, avec ses propres yeux. C'est aussi, ça va jouer beaucoup sur le fait qu'on est constamment dans la non-culpabilisation. C'est vraiment aussi un maître mot chez nous. Et ça, c'est hyper important.
Quand tu dis ouais, non-culpabilisation, ça veut dire quoi exactement ?
Ça veut dire qu'on va jamais, remettre en cause directement des pratiques, des habitudes, etc. chez le public qu'on a en face de nous. On va plutôt justement essayer de présenter des choses, des informations, d'en discuter avec le public, mais en essayant le plus rapidement possible de comprendre à qui on parle pour pas blesser, pour pas déstabiliser, en fait, avec l'idée que si on rentre frontalement en disant c'est horrible, tu manges un bœuf, tu sais que derrière il est mort, c'est pas du tout notre discours, parce que justement ça va braquer les gens, alors que nous on va plutôt essayer d'amener de faire réfléchir à l'impact de la consommation de viande, par exemple, et d'apporter des solutions qui peuvent être adaptées à chacun, en fait, chacun, chacune, comme manger un peu moins de viande, essayer de choisir un peu mieux sa viande, aussi pour soi, on fait souvent le parallèle avec des aspects sanitaires, etc. Et donc, voilà, sans jamais jeter de culpabilité, en fait, sur les personnes. Et c'est vraiment hyper important, sinon le message ne passe tout simplement pas, et tout le monde est énervé. Nous y compris, et c'est pas le but.
Et du coup, il y aurait peut-être un petit côté écologie pour toutes et tous, même les personnes qui se sentent pas forcément concernées par le sujet. Le but, c'est d'aller voir tout le monde et de pas se rester dans une zone de confort de personnes qui sont déjà en adéquation, en fait, finalement, avec vos idées. Voilà, je sais que, j'avais vu ça sur le site internet de CIE, que vous interveniez aussi dans des domaines d'action très variés. Plutôt, est-ce que vous pouvez me dire déjà quels sont ces domaines-là et pourquoi ce choix ?
On a 8 dispositifs, donc qui correspondent à 8 publics différents. Donc de tête, ça va être les écoles primaires, collèges, lycées, structures de l'enseignement supérieur, entreprises, particuliers, structures sociales et restaurateurs.
Et vous adaptez à chaque fois vos interventions en fonction de où vous allez ?
Oui, on ne va pas parler pareil justement d'élevage à des enfants de 5 ans, 5 ans pas trop, mais on commence à partir de 8 ans à peu près, 7-8 ans, que dans une entreprise à des adultes, quoi.
C'est un des principes de l'association, un principe pédagogique de se mettre à la hauteur, entre guillemets, de la personne. Enfin, c'est pas le mot à la hauteur, mais
va s'adapter en fait, tout simplement.
Voilà, c'était celui-là que je cherchais, c'est de s'adapter aux autres. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que vous, enfin, qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est quoi vos actions? Comment vous les organisez? Vous faites des ateliers? Qu'est-ce que vous faites avec l'asso?
On propose pas mal de choses différentes. On a un peu, en fonction des sujets, on a des ateliers, mais on va aussi avoir ce qu'on appelle des présentations-discussions. Donc, ce qui va se rapprocher le plus d'une conférence, mais on n'aime pas l'appeler conférence, qu'on le fait différemment. Le but, c'est vraiment d'inclure le public et de partir de ses connaissances de base. Et on fait pas mal d'ateliers do-it-yourself pour donner des alternatives, par exemple, zéro déchet au public avec qui, au public qu'on va voir. Et après, comme tu le disais tout à l'heure, on adapte aussi forcément au public qu'on voit avec les enfants. On va faire, par exemple, de la pâte à tartiner pour leur parler de déforestation.
Ok. Est-ce que je peux en savoir plus sur cette histoire de pâte à tartiner?
Tout simplement, c'est une recette de pâte à tartiner de l'association. En fait, on leur explique le sujet de la déforestation dans une première séance, et la séance suivante, on leur montre une alternative à la pâte à tartiner Nutella qu'ils connaissent très bien, sans utiliser de l'huile de palme, et pour leur montrer que c'est facile et que ça peut être économiquement plus intéressant que d'acheter son pot tout fait. Et ensuite, ils peuvent ramener leur petite recette à la maison. Donc, c'est assez chouette.
Okay. Et vous êtes toujours sur un format de plusieurs séances?
Alors, pas toujours, non. Ça va vraiment dépendre des structures. Là, les écoles primaires à Grenoble, oui, parce qu'on a des périscolaires deux fois par semaine. Donc, avec les périscolaires, on essaye d'avoir une continuité dans ce qu'on fait. Sinon, parfois, on intervient juste une fois dans une entreprise, ou ça peut être juste une fois dans un collège. Ce qu'on va faire, d'ailleurs, très prochainement dans un collège en Isère.
Très bien. Et comment ça se passe au niveau des tarifications, comme on parlait de l'écologie pour tous et pour toutes? J'imagine que vous avez mis en place un système qui permet d'intervenir soit gratuitement ou à des prix bas.
Oui, tout à fait. Oui, c'est hyper important que tu le dises. D'ailleurs, nos tarifs, ils s'adaptent aux structures avec lesquelles on travaille et en fonction de leurs moyens, en fait. Donc, encore une fois, une école primaire va avoir des tarifs moins importants qu'une entreprise qui a les moyens de se permettre de faire nos activités, quoi.
En fait, l'idée, c'est qu'on se permet de faire du bénéfice justement sur des entreprises, pas mal, pour derrière pouvoir proposer des animations ou des activités à perte pour nous, donc qui nous coûtent plus cher que ce qu'on gagne, justement en essayant de trouver un équilibre avec ça derrière, quoi. On est un peu les Robin des Bois, l'écologie.
Ah, c'est beau. Donc toujours s'adapter, c'est un peu le maître mot. Et du coup, vous, parce que c'est vous qui êtes là ce soir, c'est quoi vos missions en service civique? Qu'est-ce que vous faites?
Plein de choses. là, ici, oui, à Grenoble, en fait, on aime un peu à s'appeler un peu responsable de l'antenne locale grenobloise de l'association. Du coup, on va être beaucoup en relation quand même avec notre tuteur en particulier, mais tous les salariés de l'association en général qui sont vraiment là pour nous aider, pour nous soutenir. On porte pas de responsabilité en tant que telle, mais en fait, derrière, on a quand même une assez grande liberté pour entreprendre beaucoup de choses, mener un peu tous les projets qui sont en cours encore. C'est très divers, mais en fait, on essaye d'avoir un peu tous les dispositifs. C'est pas encore le cas à Grenoble, par exemple. Nous, on n'a pas encore fait d'entreprise ou de particulier, mais c'est des choses qu'on va essayer de mettre en place encore. Donc voilà, on n'a pas vraiment de journée type.
Ok, donc c'est varié. C'est cool, ça. Et si vous pouviez dire genre deux mots pour donner envie à quelqu'un peut-être qui nous écoute de venir faire le service civique un jour, qu'est-ce que vous leur diriez?
Peut-être que c'est diversifié et que ça a du sens. Bérangère, je ne sais pas si tu as deux autres mots, peut-être.
Très bon choix. Très bon choix de mots.
Le sens, c'est vrai que c'est une question qui taraude beaucoup les esprits en ce moment sur ce qu'on fait dans la vie. C'est vrai que finalement, quand on se rend compte que ce qu'on fait a du sens, ça fait du bien à la tête, quoi. C'est bien d'être bien dans la tête, hein.
De ouf. Et c'est ce que nous disent beaucoup, les personnes qui cherchent les services civiques, mais aussi beaucoup de bénévoles viennent à nous. En fait, souvent, les gens viennent à nous directement. On n'a même pas forcément besoin d'aller les chercher parce qu'ils ont entendu parler de l'asso ou autre et qu'ils sont en recherche de faire des choses un peu cool et qui ont du sens.
Et vous êtes,
ça revient beaucoup.
Vous êtes beaucoup de bénévoles dans l'asso ?
Dans l'asso, pas mal. Au niveau, on va dire, national de l'association, on est à peu près 350 membres, nombre qui ne cesse de grandir, donc c'est super chouette. Et nous, à Grenoble, on a une vingtaine de bénévoles avec nous. Donc, pareil, on en accueille un peu plus chaque semaine, donc c'est génial. Et on est preneur d'accueillir des nouveaux bénévoles tout le temps.
Et on cherche aussi, en parallèle, il y a le format bénévole, donc de personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais qui ont du temps et l'envie de s'investir. Il y a aussi le format collaborateur, collaboratrice, qui permet de soutenir l'asso, en fait, un peu financièrement, sans engagement de temps aucun. Voilà, mais c'est pas très cher, hein, mais c'est juste un petit coup de pouce qui est salvateur pour nous.
C'est une cagnotte en ligne, par exemple ?
Alors, pour être collaborateur, collaboratrice, c'est 2 euros par mois. Il me semble que ça se passe sur Eloasso.
Ok, très bien, c'est bon à savoir. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale pour respirer un peu. J'ai découvert une nouvelle musique il n'y a pas longtemps que j'avais bien envie de faire passer. C'est deux meufs qu'on va dire que je trouve super badass. Elles s'appellent les Nova Twins et on va écouter Wave. I'm bored, it's getting harder to ignore. Petulance, I found a cure. Give them some psych, my delirium, hypnagogic illusion. Tips on my tongue, licking my skips to your numb, make you shiver like a thriller. Hands on my neck, got me choking in a sweat. Science under our flesh, it's an experimental. Tell me what you gonna do about it. Wish they all want what I am giving. How I love to see them fall. Taking it all in, see it spilling from their lips, drawing like a dirty dog. Swallow it or spit, put some fucking shine on it. No, don't mind me at all. Listen at my door with the ears pinned on the wall. Curious, they wanna know. They wanna know. Hop, une bonne dose d'énergie avec Nova Twins sur Campus Grenoble 90.8. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur les ondes, je suis avec Robin et Bérangère, des membres de l'association CIE, Conscience et Impact Écologique, une association grenobloise mais aussi présente sur tout le territoire français. Voilà, rebonjour.
Rebonjour.
Est-ce que vous re-allez bien ?
Toujours.
Toujours, va bien.
Eh bien, j'en suis contente. Voilà, on est tous contents. Donc on parlait d'écologie, on parlait de politique, on parlait du social avec votre association qui se définit comme une association d'éducation populaire à la transition écologique. Moi, ce que j'avais envie de discuter avec vous, c'était le côté pédagogique, votre méthode pédagogique, comment vous y prenez dans vos ateliers. Il y avait une phrase sur le site qui m'avait marquée, c'était que vous faisiez plus que de la sensibilisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, plus que de la sensibilisation? Est-ce que vous essayez de convaincre, par exemple? Je ne sais pas.
Alors, non. Justement, ça n'irait pas avec ce que je disais avant pour celles et ceux qui sont là depuis le début, de notre vocation, notre objectif de non-culpabilisation et d'éducation populaire. Donc, on fait plus que de la sensibilisation, dans le sens où, derrière, on ne va jamais aborder un sujet comme ça, juste en sensibilisant, en donnant des chiffres horribles qui vont déprimer tout le monde. C'est hyper facile à faire. Les chiffres, il y en a plus qu'il n'en faut. Mais nous, derrière, à chaque fois, on va essayer de donner des solutions concrètes et de voir avec le public comment mettre en place ces solutions concrètement, justement, et même pas que de les balancer comme ça sans savoir si vraiment ils peuvent le faire ou pas. Donc c'est en ça qu'on va peut-être un peu plus loin que la simple sensibilisation, quoi.
Ok, c'est de donner des clés de compréhension, essayer de conscientiser peut-être, ça pourrait être le mot, ou non?
Bah, c'est dans notre nom, hein, donc
ouais. Ah oui, ça s'y prête bien. C'est vrai.
En parlant de mots, je me permets juste de... Oui. J'ai fait une petite erreur tout à l'heure, j'ai dit collaborateur, collaboratrice. Il s'agit de coopérateur et de coopératrice,
oui,
le mot, voilà.
Oui, parce qu'il y a des bénévoles dans l'association, des services civiques comme vous et des...
Coopérateurs et coopératrices.
Voilà. Robin avait fait une bourde. Là, là. Donc on en revient quand même sur cette conscientisation. C'est développer son éco-citoyenneté. J'avais vu aussi. Qu'est-ce que vous appelez l'éco-citoyenneté?
Ça va se rejoindre en fait l'aspect de politisation des enjeux écologiques et des enjeux environnementaux. Donc l'éco-citoyenneté, en fait, c'est adopter une posture citoyenne, on va dire, vis-à-vis des enjeux environnementaux, de les considérer justement comme des enjeux sociétaux et donc... d'intégrer ces enjeux dans la façon dont on va occuper justement la société, l'espace public, dans peut-être aussi la façon dont on va choisir nos représentants, nos représentantes, etc. Donc c'est l'éco-citoyenneté, c'est un peu aller plus loin que juste se déplacer en vélo et manger bio, c'est réfléchir en fait sur l'écologie dans notre société, à quel point notre société est écolo-compatible, quoi.
Ok, très bien. Et du coup, pour en retourner à la pédagogie, je sais que vous avez, en tout cas, sur le site du CIE, il y a un manifeste pédagogique. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Comment se passent vos ateliers à l'intérieur? C'est quoi vos méthodes? Comment vous adressez aux gens? On a parlé tout à l'heure d'adaptation, qui est hyper important pour vous. Mais est-ce que par quoi vous passez, en fait?
Alors, on va déjà essayer de comprendre en fait le public, de le connaître le plus possible. C'est-à-dire savoir en fait à qui on s'adresse. Encore une fois, c'est vraiment la base de tout. Et du coup, derrière, dans notre manifeste pédagogique, il y a vraiment beaucoup de choses. nous concrètement dans nos postures. Ça va être vraiment d'être le plus à l'écoute, de faire... la chose de base aussi, c'est de faire participer le plus tout le monde, en fait. Et c'est pas toujours facile. En France, je pense qu'on a vraiment une culture avec une école très hiérarchisée, où on a une parole qui est assez difficile face à quelqu'un qu'on peut identifier comme une figure d'autorité. Justement, nous, on va vraiment essayer de venir détruire cette figure d'autorité. On n'est pas du tout là pour faire ça. Au contraire, on lutte un peu contre ça dans toutes nos interventions pour que les gens se sentent à l'aise d'exprimer leur point de vue et se sentent légitimes parce qu'ils le sont, en fait. Ils et elles le sont.
Donc l'idée, c'est d'instaurer plus des débats et des discussions plutôt qu'un format, par exemple, pour la conférence où vous débitez ce que vous avez à dire. Voilà.
C'est tout à fait ça. Ouais.
Okay. Et alors, j'avais lu aussi que parfois, ça arrivait que vous passiez avant même, entre guillemets, que l'atelier ait commencé, que, par exemple, s'il y avait une salle à préparer, vous la prépariez avec les personnes pour justement être déjà dans un moment commun et dans un échange pour justement peut-être détruire cette figure d'autorité et s'adapter. Et en fait, finalement, on n'est pas là pour te juger, ni pour te critiquer, ni pour t'apprendre quelque chose, vraiment.
Oui, voilà, c'est ça. On est un peu formés en interne à des techniques d'animation, aussi des techniques de rhétorique, de sensibilisation, justement, pour potentiellement répondre à des personnes qui peuvent être énervées et assez virulentes dans ce qu'elles nous disent, pour justement, nous, ne pas tomber derrière dans la culpabilisation ou rentrer dans ce jeu-là et calmer les choses. Donc on a des petites formations à ce niveau-là. Et oui, donc par exemple aussi plus concrètement, genre réorganiser la pièce, voilà. Et en fait ça, après ça va avec des scolaires par exemple, ça va être difficile. C'est là où c'est peut-être le plus dur de casser cette dynamique d'autorité, notamment avec les périscolaires, parce qu'en plus c'est la fin de journée pour eux. Ils sont fatigués, ils sont assez jeunes quand même. Donc des fois, ils n'ont juste pas envie et ça se comprend. Et donc là, voilà, nous, l'idée, c'est qu'ils passent un bon moment aussi, au-delà du fait qu'ils apprennent des choses et qu'ils réfléchissent. Et voilà, donc c'est des choses à mettre en place qui ne sont pas toujours évidentes, mais on essaye.
Et du coup, vous passez par la pratique aussi, comme tu disais, avec l'atelier avec les pâtes à tartiner, par exemple. Vous faites beaucoup de pratiques.
Oui, la pratique, ça vient toujours. Alors, on essaye d'allier toujours la pratique ou du moins des solutions à, comme disait Robin, tout ce qu'on va annoncer comme chiffres et tout ça, donner des clés d'action. Et en fait, ça rejoint un peu les trois piliers de notre association, qui sont les trois piliers qu'on va tout le temps utiliser en animation. Le premier, c'est développer l'envie d'agir. En fait, on va essayer de développer chez les publics l'envie d'agir en leur donnant des clés de compréhension. Le deuxième, ça va être développer la capacité d'agir. Et cette fois-ci, c'est plus leur donner des clés d'action, justement, avec un atelier pâte à tartiner, par exemple. Et le dernier, c'est l'aide à la transition écologique, où là, on va plus aller dans l'accompagnement pour les structures qui le souhaitent, avec par exemple notre projet restaurateur à Grenoble et dans quelques autres villes.
Ok. Le projet restaurateur, du coup, c'est accompagnement des restaurateurs dans quel contexte ?
Dans un contexte de transition écologique.
Oui, toujours. Non, je rigole.
En gros, plus sérieusement, c'est un accompagnement qu'on fait gratuitement auprès des restaurateurs. Donc ça, c'est quand même un gros plus parce que beaucoup n'ont pas les moyens forcément de se pencher sur ces questions-là. On arrive en fait, c'est nous-mêmes qui allons démarcher les restaurateurs. Ensuite, s'ils acceptent de travailler avec nous, parce que pour eux, c'est tout bénef en fait, on réalise un éco-diagnostic avec eux pour un peu voir quelles sont leurs pratiques, etc. À partir de cet éco-diagnostic, on va leur rendre un rapport de préconisation dans lequel on leur propose des choses. Et en fait, l'idée, c'est de faire ça sur la durée. Donc, on leur rend un rapport de préconisation. Ensuite, on a des rendez-vous et c'est une balle qu'on se renvoie mutuellement pour apprendre à les connaître, apprendre à connaître en fait les choses qui sont adaptées à elles et eux pour vraiment en fait leur proposer des choses qui sont pas trop difficiles, pas trop chères, faisables, parce qu'il y a chaque restaurant a ses contraintes en fait, et donc les comprendre au mieux, etc., et pas leur proposer des solutions toutes faites qui n'iraient pas.
Ok, donc encore s'adapter.
Tout à fait.
et du coup tu disais que par exemple les restaurateurs, vous alliez souvent les démarcher. Ça vous arrive souvent d'aller démarcher ou pas ? Ou alors on fait plus appel à vous ?
Pour les restaurateurs, c'est plus souvent nous quand même qui allons chercher les restaurateurs. Après, ça va dépendre un peu des dispositifs avec lesquels on travaille, mais pour les restaurateurs, pour l'instant, c'est principalement nous. Ouais.
Mais même dans l'ensemble, c'est quand même souvent nous qui allons chercher les gens, mais pas tout le temps, hein. Ça dépend.
Est-ce que vous avez de plus en plus, par exemple, de personnes qui font appel à vous ? Est-ce que vous voyez une évolution un peu ?
On peut voir l'évolution en fait de l'association tout court. Tout à l'heure, tu disais une quinzaine de départements. C'est là où on peut retrouver en fait la présence de CIE. Après, il y a vraiment, les antennes qui sont réellement très active et dynamique. Ce sera donc Lyon, enfin Villeurbanne, Grenoble, Chambéry, Avignon et Montpellier. Voilà, donc après on a effectivement des présences un peu ailleurs, mais c'est là où c'est le plus dynamique. Et donc voilà, ça c'était pas du tout le cas avant. C'est une asso qui a à peine 10 ans et qui a quand même grandi de manière assez fulgurante. Et c'est assez chouette à voir ce dynamisme et cette grosse machine qui fait plein de choses.
Et vous le sentez, par exemple, dans vos ateliers, dans les réactions des personnes, une évolution, peut-être qu'il y a peut-être un peu moins de réticence ou pas du tout?
Alors, nous, ça fait peut-être pas assez longtemps qu'on est là. Du coup, en tant que service civique, on n'est que là depuis mi-février. Là, on est début mai. mais, enfin, moi, par exemple, ce que j'ai remarqué à titre personnel, c'est vraiment une conscientisation assez énorme chez les enfants. Vraiment, c'est les adultes, c'est un peu la roulette. Enfin, ça dépend. on ne sait jamais trop. Mais alors, les enfants, dans l'ensemble, ils sont quand même hyper conscients. Bon, y a des choses, voilà. Enfin, on sert quand même à quelque chose. Hein, on leur permet de réfléchir un peu plus loin, d'aller au-delà de ce qui se dit en général, mais quand même, je pense que les enfants très jeunes aujourd'hui en savent énormément par rapport aux enfants du même âge d'il y a seulement quelques années, quoi.
Peut-être parce qu'il y a justement un travail de sensibilisation et plus, du coup, avec vous, mais qui se fait de plus en plus avec de nombreuses assos présentes en France. Il y en a beaucoup qui misent justement sur l'aspect éducatif. D'ailleurs, je voulais vous poser la question en début d'émission et je ne l'ai pas fait. Pour vous, c'est important d'éduquer, entre guillemets. Pourquoi aller vous investir dans une asso qui agit via ce prisme-là?
Je pense que ça va rejoindre un peu l'aspect de transformation sociale, oui, et politique, donc qui sont donc au cœur en fait de l'association. C'est pourquoi je pense que c'est un aspect essentiel en fait justement d'une transformation culturelle. C'est un processus hyper long avec des allers-retours, c'est très complexe. Il y a plein d'aspects qui sont interconnectés, on va dire. Mais dans tous les cas, la sensibilisation et plus à ces sujets-là, c'est vraiment ce qui est au cœur, de ce processus là, et c'est ce qui va te permettre de tout lancer en fait un peu.
Mais on voit déjà que ça marche un peu quand même, la sensibilisation, en voyant que les jeunes quand même sont majoritaires dans le, comment dire, comme porteurs de la pensée écologique, je ne sais pas trop comment le formuler, mais qu'on a beaucoup, beaucoup d'associations où c'est des jeunes qui sont impliqués dedans. Je ne sais pas, vous, si c'est le cas dans votre association, mais en tout cas, nous, sur le campus de Grenoble et à Radio Campus, on a déjà accueilli pas mal de jeunes dans des assos pour l'environnement. On a même un programme spécial dédié à ça qui s'appelle Univox, où chaque semaine, toutes les réseaux du Radio Campus France vont interroger des étudiants engagés pour l'environnement et tout. Et en fait, ils sont jamais à court d'idées. En fait, il y a toujours quelque chose à dire. Voilà. Donc, enfin, c'est quand même, la jeunesse est quand même très très présente.
On est là,
c'est ça. Mais pour moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et ça, je pense que ça change par rapport à il y a 10 ans en arrière, en fait. Et c'est là où peut-être qu'une asso comme vous, vous dites « Ah bah oui, ça a du sens, on est utile, ça marche !» Sans convaincre, attention. Sans chercher à convaincre. Mais très bien. Peut-être une petite phrase pour donner envie de vous voir, de venir vous voir, pas de vous voir, juste vous voir, quoi.
Alors, pour donner envie de nous voir, je sais pas, il y a une citation qui est assez motivante, un peu sympa, qu'on met souvent à la fin justement de nos présentations, discussions, de Margaret Mead, une anthropologue américaine, qui disait « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens et citoyennes engagés et réfléchis puisse changer le monde. D'ailleurs, rien d'autre n'y est jamais parvenu. » Du coup, pourquoi pas prendre part à ce petit groupe et nous rejoindre, nous ou d'autres. Hein, mais voilà.
Et puis plein de petits groupes par là, finalement ça fait un grand groupe, et c'est ce qu'on voit justement avec les associations pour l'environnement présentes de partout, et les conséquences sur la jeunesse aujourd'hui, voilà, c'est dit. une lecture à conseiller peut-être un film, une émission de radio à part celle-là.
Alors, on a un petit guide CIE qui est disponible dans certains magasins, notamment des magasins bio ou des librairies indépendantes. On va bientôt... Bon, c'est une lecture pour les enfants, on va dire. On est hyper contents et fiers d'avoir, depuis ce printemps, le premier cahier de vacances verte fait en collaboration entre Manière et notre association. Donc pareil, il est disponible sur le site de Manière ou en librairie indépendante en général, ça va de la petite section à la sixième, et c'est vraiment assez chouette si vous pratiquez pour vos enfants le cahier de vacances, c'est assez sympa.
Il y a même des petites graines de coquelicots à planter, alors c'est vraiment la petite touche hyper mignonne du cahier de vacances, il fallait le dire.
On adore. Et on peut le retrouver où, ce cahier de vacances?
Dans les librairies indépendantes, à Grenoble, ça va être potentiellement Artaud. Il me semble qu'il y aura deux sites, normalement. Sur le site de Manière aussi, en ligne.
Ok, très bien. Est-ce que ça vous va si on termine là? Ou est-ce que vous avez encore des choses que vous aimeriez partager?
Juste un petit dernier truc, il y a le gros événement de notre asso qui arrive bientôt, le gros événement annuel, qui s'appelle Planète Nidio, qui sera du coup le 26 et 27 juin, tout le week-end à Lyon. Donc il y aura des conférences, des ateliers, des tables rondes, c'est ouvert à tout le monde, les inscriptions sont sur Hello Asso, et vous retrouvez tout sur notre site, mais c'est vrai que c'est le gros événement de l'asso et un événement qu'on attend avec grande impatience.
Eh bien, chers auditeurs et chères auditrices, n'hésitez pas. Vous retrouverez l'émission en podcast sur notre site, section podcast, section apérophonie, et vous retrouverez toutes les infos nécessaires dans la description du podcast. Voilà. Merci Robin, merci Bérangère d'être venu à notre antenne aujourd'hui. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, cette petite expérience radiophonique.
Très bien, merci à toi.
C'est toujours un plaisir d'être à la radio. Merci à toi, Romane.
De rien. Je propose que j'avais envie de vous balancer une petite info joyeuse pour finir cette apérophonie. C'est une info joyeuse un peu nulle qui ne va pas vraiment nous servir beaucoup dans la vie, c'est un constat. Juste, j'avais envie de dire que lundi, c'était la journée mondiale du soleil et que il faisait soleil lundi. Et j'ai trouvé ça super cool et j'avais vachement envie de vous quitter là-dessus. Sur ce, on se quitte aussi sur une super chanson que j'ai découverte il n'y a pas longtemps du groupe Applause qui s'appelle In and Out. In and Out, voilà. Et c'est super. Le groupe, il est malheureusement disloqué depuis quelques années. Mais bon, on peut toujours continuer de l'écouter. Je vous souhaite une bonne écoute sur Campus Grenoble 90.8. C'est la fin de cette apérophonie et je vous dis à bientôt.
Decays and the roses are opened up to you. L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie !
C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !